Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se dispute, même le samedi, toujours en direct, toujours sur CNews et toujours un face-à-face. Avec ce soir, Elisabeth Lévy, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Ravi de vous accueillir.
Moi aussi.
Philippe Doucet, bonsoir.
Bonsoir Lionel.
Ravi de vous accueillir également et c'est très bien de vous réunir tous les deux ce soir pour évoquer l'actualité et notamment cette actualité. Malgré la double interdiction préfet et tribunal administratif, il y avait des milliers de manifestants à un rassemblement pro-palestinien à Paris, place du Châtelet, en plein centre de la capitale aujourd'hui. La foule a été empêchée de se mettre en mouvement par un très important dispositif policier. Quelques tensions, mais des militants très déterminés. On fait le point avec Maxime Leguet.
Ils étaient près de 4000 cet après-midi à se rassembler pour cette manifestation pro-palestinienne, place du Châtelet, en plein cœur de Paris. Un rassemblement, alors même que la manifestation avait été interdite par la préfecture de police de Paris et le tribunal administratif. Des manifestants qui ont donc bravé l'interdiction pour venir, drapeau palestinien à la main, scander inlassablement durant toute la journée des slogans tels que « Israël assassin »,« Macron complice » ou encore « Nous sommes tous palestiniens, nous sommes tous palestiniens ». De nombreuses pancartes également étaient brandies sur lesquelles on pouvait lire « Stop au génocide à Gaza pour un cessez-le-feu ». Une journée sous haute tension donc et un vaste dispositif de sécurité déployé. Nous avons vu des gendarmes, des policiers procéder à des interpellations musclées et à plusieurs verbalisations, le tout sous les huées de la foule. Avant d'être définitivement dispersés, les manifestants se sont écriés comme un seul homme, on reviendra, on reviendra.
Et la question que nous nous posons ce soir dans Ça se dispute, première question, faut-il, dans le contexte du conflit Israël-Hamas, bien sûr, proscrire désormais en France systématiquement les manifestations pro-Palestine.
Alors, il y a un mot qui est intéressant, c'est systématiquement. Pour une fois, je suis d'accord avec le Conseil d'État, qui pense qu'il ne faut. D'abord, en termes de liberté, on n'interdit pas après, de façon préventive toute manif sur un sujet. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Deuxièmement, politiquement, je pense que c'est absurde, parce que ça nourrit un discours. Vous voyez, les Juifs, on leur déroule le tapis rouge, et puis. Nous, on est comme d'habitude, l'islamophobie. Enfin, vous voyez tout là. Je vous la fais courte. Et troisièmement, ça n'a absolument encore moins de sens, puisque de toute façon, on déploie plus. C'est-à-dire que si on interdit, il faut au moins, le minimum, c'est de se donner la peine de faire respecter nos interdictions. Parce que là, si vous voulez, on mobilise encore plus de flics. Par contre, je suis très favorable. D'abord, il n'y a pas d'écrit antisémite dans toutes les manifs, il faut être honnête. Il y a du Allahu Akbar en général, mais... je suis très favorable, évidemment, à ce que... quand la loi est franchie. Mais peut-être, si vous me permettez, je poserai une question à Philippe. Quand la loi est franchie, il faut sanctionner.
C'est votre émission.
Mais en fait, je me demande si des cris qui, moi, me révulsent. Si vous voulez, d'abord, à la Ouagbar, en dehors d'une mosquée, c'est pas un cri religieux, c'est un cri de guerre. Hein. Je précise que j'ai rien contre les gens qui disent à la Ouagbar, à la mosquée, bien sûr. Mais est-ce que dire Israël assassin, qui est vraiment dégueulasse, après ce qui s'est passé, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'on doit l'interdire, en fait?
Est-ce que c'est antisémite aussi, à la limite? On peut se poser la question. Philippe Doucet.
Oui, enfin, moi, pour
déjà,
moi.
Déjà, sur les manifestations, je pense qu'il ne faut pas les interdire. On ne peut pas interdire systématiquement. Trouble à l'ordre public, bon, voilà, quand il y a 4000 personnes sur Paris, alors imaginons que s'il n'y avait pas eu l'interdiction, elle est même le double. Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas voulu y aller. Parce que c'était interdit, qu'ils pouvaient penser qu'il pouvait y avoir des risques pour eux. C'est pas ni les manifestations qu'on peut voir à Londres, par exemple, où il y avait beaucoup plus de monde, ou à Berlin, ou en Espagne.
Oui, mais ça n'a rien à voir. Philippe Doucet, ça peut gonfler.
Oui, ça peut gonfler.
Non, mais il y a de nouvelles manifestations.
D'accord, mais enfin, moi, je suis pour qu'il y ait de la liberté de manifester. Il y a en France des gens qui sont sensibles à la cause palestinienne. Je pense que ça ne sert strictement à rien et que c'est contre-productif d'empêcher les gens de manifester alors qu'ils ont une émotion par rapport à ça. Parce que dans ceux qui manifestent, il y a ceux qui sont pour le cessez-le-feu, donc ils ont la bancarte pour le cessez-le-feu. Il y en a qui considèrent qu'effectivement, il y a une colonisation. Enfin, vous avez, quand vous regardez les slogans, ils sont de tout type. Bon, donc il y a ceux qui ont toujours été contre Israël. Finalement, dans la manifestation, les gens sont des profils extrêmement, ont des profils extrêmement différents. Moi, je ne suis pas pour qu'on interdise ces manifestations. Par contre, s'il y a des slogans antisémites qui peuvent être prononcés, c'est déjà arrivé, la police est capable, d'abord ils ont des agents à l'intérieur de la manifestation et on peut tout à fait interpeller des gens dans une manifestation. Ça, je pense que c'est
vous
une
savez
chose.
Que c'est très difficile, ça passe, il y a des
gens qui racontent.
Mais je pense que ça
avec
se fait.
Avec la rue qui crie.
Oui, ils l'ont fait cet après-midi dans une manifestation qui n'est pas autorisée, ils ont interpellé des gens.
15 interpellations.
Oui, pour leur mettre des amendes de 135 € pour manifester. Bon, donc et derrière, la police a ses fers, même s'il peut y avoir de la violence autour de ça, mais je pense que les slogans antisémites n'ont pas le droit par rapport à ça. Sur l'histoire de l'étude, pour répondre à Elisabeth Lévy sur l'histoire d'Israël assassin, on sait très bien qu'il y a deux lectures par rapport à ça. Je dirais, ces deux lectures vont traverser tout le débat. Il y a ceux qui considèrent que à partir du moment où il y a eu les attentats terroristes du Hamas, et ben Israël a le droit de riposter et de se défendre et de bombarder par rapport à ça. Et il y a ceux qui considèrent que du coup Israël va trop loin dans sa riposte et donc oui, se met dans une position de tuer beaucoup de civils palestiniens.
Pardon, mais Israël assassin, ça veut dire que Israël, l'armée israélienne parle le matin ou le soir ou que ses avions partent pour tuer des civils. Je tiens quand même à dire que c'est un mensonge éhonté. Assassin, ça veut dire avec préméditation. Ça veut dire que leur but est de tuer des civils. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord avec vous, je suis d'accord sur la conclusion parce que j'aime pas les interdire, parce qu'en plus ils servent à rien. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est sur la nature de ces manifestations. Ces gens, il n'y a pas pendant la guerre en Syrie, au premier jour de la guerre, c'est Gil Mikhaïli qui m'a rappelé ce fait. Le camp de Yarmouk, qui est un camp de réfugiés palestiniens en Syrie, où il y avait 120 000 personnes, ou 130 000 personnes. Mais ils étaient un peu frères musulmans, un peu Hamas sur les bords, ces Palestiniens. Et le Hamas était contre Assad. À la fin du siège, si vous voulez, et qui était un vrai siège, les gens sont morts de faim. Il en restait 200. Est-ce qu'il y a eu un mot, si vous voulez, de tous ces gens, si vous voulez, qui sont tellement, qui se disent on assassine nos frères musulmans? Non. Ce qui les intéresse, c'est pas du tout les victimes en réalité, c'est les coupables. C'est-à-dire, si c'est des juifs qui les tuent, là, ça devient intéressant. Et la réalité, c'est que la plupart des gens qui sont dans ces manifs, je ne peux pas dire tous, pensent que Israël est un État colonial, non pas en Cisjordanie, si vous voulez, où la question est absolument tragique, hein, ce qui est en train de se passer en Cisjordanie est terrible, mais colonial de la mer au Jourdain. Donc oui, moi je pense que c'est à la fois antisémite, antisioniste, tout ce que vous voulez, mais néanmoins, je pense que c'est pas utile, parce qu'en plus, j'en ai marre du déni. J'en ai marre de m'entendre dire, y compris sur ces plateaux, mais non, vous exagérez, je veux dire, c'est pas comme ça. Donc là, au moins, on voit.
Est-ce que ce qui n'est pas gênant, Philippe Doucet, quand on revient à cette manifestation pour la Palestine, ces manifestations pour la Palestine, quand le Hamas passe pour le référent et que l'amalgame est fait? C'est-à-dire que la manifestation pour la Palestine passe pour le grand public, pour une manifestation en faveur du Hamas.
Bah parce qu'elle l'est.
Oui, mais
Parce qu'elle l'est, ça c'est la question qu'on peut se poser. Oui, c'est une vraie interrogation.
Je ne suis pas sûr que. Non,
je sais pas si c'est un postulat. Mais
pour revenir à la première remarque d'Elisabeth Lévy, je pense que. Il y a une sensibilité pour la cause palestinienne qui n'est pas la même que sur ce qui s'est passé en Syrie ou ce qui s'est.
C'était des Palestiniens.
Ça a pu se passer au Liban, enfin, dans toute une série d'endroits, ou en Jordanie. Bon. Donc, effectivement, il y a une cristallisation autour du conflit israélo-palestinien, très ancienne par rapport à ça, avec une partie, je pense, une minorité qui considère qu'Israël, en fait, n'a pas le droit à l'existence en tant que telle. Je pense qu'il y a une partie des gens qui considèrent qu'Israël est un État colonial depuis 1948, et puis d'autres qui sont sur. On doit avoir une logique de cesser le feu parce que ils ont envie tout simplement que ils aimeraient bien que la solution deux États, qui est la position de la France historique, qui est la position de l'ONU depuis 1967, se mette en place. Bon, donc je pense que par rapport à ça, par rapport à la sensibilité dans la société française, je trouve que le nombre de manifestants, même dans les manifestations qui sont autorisées, n'est pas très important par rapport à ça.
Non, ça veut dire qu'il y en a eu à Marseille, 1200 à Marseille, il y a eu une manifestation à Tours.
C'est
également.
Pas Londres et Berlin, là où il a raison.
Londres ou Berlin.
C'est que c'est pas Londres
et
Berlin.
Quand on regarde, quand on regarde Londres aujourd'hui,
c'est le londoniste.
Là, il y a beaucoup de monde.
Oui, on va y venir.
Il y a du Al-Akbar, dans le sens, comme manifestation islamistes. Là, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Beaucoup de gens étaient sur cessez-le-feu. On peut pas reprocher à Yannick Jadot, par exemple, qui était dans la manifestation cet après-midi, sénateur écologiste, qui est sur une position équilibrée dans cette, dans ce, dans de cette manifestation, d'être, de ne pas avoir une position équilibrée.
Sauf si on suit le raisonnement d'Elisabeth Lévy. J'ai retenu ce que vous avez dit tout à l'heure, Elisabeth Lévy. Cette manifestation pro-Palestine, pour vous, de fait, c'est une manifestation pro-Hamas. Alors,
je demande peut-être, parce que la réalité, c'est que celle-là, je n'y étais pas. Et je vais vous dire pourquoi je n'y étais pas. Parce que je sais parfaitement que si j'y vais, dans le meilleur des cas, je vais juste me faire enquiquiner parce qu'on va me reconnaître, c'est news, bon, vous connaissez, Lévy.
La rançon du
si
succès.
Mais, si vous voulez, si c'était juste me faire enquiquiner, je ne suis pas sûre, si vous voulez, de pas que ce ne soit pas plus dangereux. Et surtout, après, on va dire, elle fait de la provocation. Donc, je n'y vais pas. Donc, peut-être que celle-là, s'il y avait Jadot, je crois effectivement, probablement, si Jadot avait entendu des cris antisémites, il aurait quitté. Donc, je ne sais pas. Aussi. C'est pour ça, si vous voulez, il faut quand même regarder qui les organise. Ils ont des mots d'ordre, ils ont des tweeters, il faut aller regarder. Si vous voulez, même s'ils écrivent pas mort aux juifs sur leur tweet, il suffit de regarder un peu, vous voyez bien le... Maintenant, je pense qu'il y a quand même une telle inculture, y compris dans notre communauté musulmane, dans notre jeunesse musulmane, il y a une telle inculture. Par exemple, l'autre jour, j'ai essayé de discuter avec un gamin vraiment 12-13 ans, qui était là. Donc, et j'essaye de discuter avec lui. Et j'essaye de lui expliquer que tout commence... Parce qu'en plus, il sort des mots-clés, le droit international, j'ai envie de lui dire, mais quoi, bah, moustonné. Et tout commence quand même, ils ne le savent même pas, qu'en novembre 47, il y a un plan, la première résolution de l'ONU, on nous dit toujours, ah, les résolutions de l'ONU. La première résolution de l'ONU de ce conflit, c'est la 181, novembre 47, qui crée deux États. Qui refuse ces deux États? À ma connaissance, et à la connaissance de tout le monde d'ailleurs, ce ne sont pas les Juifs qui, à ce moment-là, refusent les deux États. Les Juifs acceptent le tout petit État qu'on leur donne. Les autres disent non. Il y a 5 armées membres de pays membres de l'ONU qui arrivent sur le petit État juif qui est tout petit à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là, effectivement, ils ont... Donc, si vous voulez, tout ça commence aussi. Donc, je veux bien qu'on parle du droit...
Oui, mais aujourd'hui, le débat n'est plus le débat géopolitique de l'État d'Israël. Absolument. Oui. Mais aujourd'hui, le débat, il est religieux dans ces manifestations. Est-ce que c'est véritablement Philippe Bouzé pour la cause palestinienne?
Non, je ne crois pas qu'il soit religieux, en tout cas.
Même quand on prononce Allah Akbar dans la manifestation.
Non, il y a eu quelques manifestants. Faut être honnête. Il y a eu quelques manifestants, une quinzaine, à la manifestation Place de la République. Aujourd'hui, je pense que s'il y avait eu aujourd'hui, ou sur d'autres manifestations à Marseille ou à Tours ou ce que vous voulez, ces éléments-là, il y a suffisamment de journalistes qui suivent ces manifestations, tout ça aurait été identifié. Non, je pense qu'il y a un débat qui est posé et depuis des années, et c'est d'ailleurs la réussite du Hamas d'avoir remis la question palestinienne au cœur d'un débat, alors que sur le fond, tout le monde était découragé, au sens en se disant, en gros, personne ne veut la solution aux deux États, ni l'extrême droite israélienne avec Netanyahou, avec la logique des colons pour la Cisjordanie, ni le Fatah, ni le Hamas qui veut en fait l'éradication d'Israël. Et donc, du coup, c'était devenu un conflit secondaire, au sens où tout le monde était un peu découragé. On continue à dire 1967, la résolution deux États. Bon, là, le sujet redevient au cœur de l'actualité et de manière durable. Parce que, effectivement, ce qui se passe à Gaza va durer. Et donc, on voit bien qu'il y a une fracturation en France.
Non, mais attendez,
pas si important que ça, mais il y a aussi une fracturation plus large en Europe et au monde, d'ailleurs.
Entre 1948 et 1967, la Cisjordanie n'était pas occupée. Elle était gérée, gouvernée, appartenait à la Jordanie. D'accord ? Il n'a pas été question, à ma connaissance, de faire un État palestinien dans cette... partie de la Jordanie, puisqu'à ce moment-là, on dit Cisjordanie pour cette partie, Transjordanie, justement, de l'autre côté du Jourdain. Il n'a pas du tout été question de faire un État palestinien. Pourquoi, si vous voulez, la Cisjordanie, c'était la même terre. Il n'y avait pas de manifestation de qui que ce soit.
C'était il y a 56 ans, Elisabeth
Lévy.
Excusez-moi, je peux aller au bout d'un raisonnement. J'essaye juste de vous dire qu'il se joue autre chose que si ça n'était pas Israël, si vous voulez, qui était la puissance souveraine d'une partie et la puissance occupante de l'autre, si vous voulez, tout le monde s'en ficherait. La deuxième chose, c'est qu'il y a une naïveté de l'extrême gauche et de la gauche, d'ailleurs, même de mes amis de gauche, si vous voulez, sur ce qu'ils appellent la cause palestinienne. Par exemple, mon cher ami Olivier D'Artigol me dit « Oui, mais tu comprends, nous, on a défendu le nationalisme laïque façon Arafat. » Et là, les bras m'en tombent, si vous voulez, parce que c'était vraiment... Excusez-moi, d'abord, ces laïcs étaient tout aussi terroristes. Ils massacraient des gens, ils faisaient des attentats, ils détournaient des avions. Si vous voulez, alors moi, je veux bien que maintenant, on nous explique qu'ils sont merveilleux, mais... Je pense.
Mais d'accord, mais pardon, mais vous répondez pas à la question, parce que peut-être qu'en 67, jusqu'en 67, effectivement, il y avait la Cisjordanie, la Transjordanie sous l'autorité du roi de Jordanie, avec l'esplanade des Bosquets à Jérusalem, mais n'empêche que l'OLP, elle est créée en 64. Donc à partir de... En réaction à la naissance d'Israël, il y a eu la création d'un nationalisme palestinien. C'est une réalité. Donc, on peut dire, moi j'entendais ça quand j'étais plus jeune, qu'il y avait un État palestinien, c'était la Jordanie. Bon, voilà.
J'ai pas dit ça.
Non, oui. Mais moi j'avais mes copains Sciences Po, du comité Israël, ils me disaient, mais Philippe, il y a un État palestinien, c'est la Jordanie. Bon, on peut se le dire. Il se trouve que les Palestiniens ont décidé, autour de Yasser Arafat, avec son autorité, de monter l'OLP. Donc aujourd'hui, vous avez un nationalisme palestinien, vous avez une volonté nationale palestinienne, oui. Qu'on soit pour, qu'on soit contre.
Mais que c'est reste un fait de l'OLP aujourd'hui. C'est le référent, c'est le Hamas aujourd'hui. L'interlocuteur semble être le Hamas aujourd'hui.
Netanyahou a fait un jeu depuis qu'il est revenu au pouvoir en 2009. Il a joué le jeu du Hamas, parce que quand même, tout le monde le sait aujourd'hui, le Qatar arrivait avec sa valise en passant par les officiels israéliens pour aller financer le Hamas. De l'autre côté, l'OLP et le Fatah restaient simplement sur la Cisjordanie. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça la réalité.
Vraiment, Elisabeth Lévy, réaction, et après, je vous montre les manifestations à travers le monde.
Sur le fait que Netanyahou a manipulé le Hamas, ça c'est tout à fait sûr, mais je vous rappelle que le Hamas a pris le pouvoir par un coup d'État à Gaza,
oui, bien sûr.
Si vous voulez, et après, ils ont évacué Gaza. Alors c'est extraordinaire, si vous voulez. C'est que ils ont comment ils sont arrivés au pouvoir ?
Il n'y a pas eu d'élection ?
Ils sont arrivés. Ah ben non. Ils sont arrivés au pouvoir en tuant en plus
membres du Fatah.
Les gens du Fatah, ils sont arrivés au pouvoir par la force, évidemment des élections, vous rigolez, je suppose. Donc, et juste dernier mot, sur ce qu'on appelle la guerre de civilisation, l'idée que maintenant c'est devenu un conflit religieux. Là, on va peut-être être d'accord, c'est qu'il faut faire attention. C'est que nos adversaires, si vous voulez, d'abord la civilisation occidentale, ou ce qu'il en reste, n'est pas elle non plus homogène, mais nos adversaires ne le sont pas. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que tous les pays musulmans et tous les pays arabes et tout le monde arabe est musulman et 100%. Donc il faut faire attention, si vous voulez,
C'est vrai que c'est un mot que je n'emploie jamais.
Non, mais.
Parce que, voilà, je n'emploie jamais. Je pense que c'est un conflit, d'abord, sur une base nationale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments religieux derrière, mais c'est d'abord une logique d'une base, une base nationale par rapport à ça. Et effectivement, le front arabe n'a jamais existé. Un des atouts d'Israël, c'est qu'il n'y a jamais eu, à aucun moment, un front arabe uni contre elle. D'ailleurs, la preuve, c'est que la question palestinienne soit devenue seconde, à vaut pour l'Arabie Saoudite, à vaut pour le Qatar, à vaut pour les Émirats Arabes Unis, à vaut pour le Maroc. Enfin, je veux dire, Israël n'a pas signé les accords d'Abraham avec la Suède.
Il y a les gouvernements des États, Philippe Doucet, en effet, mais il y a aussi l'opinion publique et les populations qui se mobilisent. Regardez les images des manifestations pro-Palestine partout en France et partout dans le monde aujourd'hui. C'est parfois très impressionnant. On a vu tout à l'heure les images à Paris, mais si les quatre coins de la planète prennent fait et cause pour les Palestiniens contre Israël, de fait, ça risque de changer beaucoup de choses dans l'opinion publique. Paris, Marseille, plusieurs milliers... Tours, Londres également. Regardez la manifestation à Londres.
Londres, c'est le Londonistan un peu quand même. Hein.
Incroyable la population présente dans une capitale européenne comme celle-ci,
là,
Londres.
Coup, je pense que c'est
en même temps que la France.
En marche.
On retrouvera Olivier Weber dans quelques instants, si on a le temps. Mais je voudrais vous montrer aussi des images avec, vous allez voir, cette mosaïque, ce quadrilatère proposé avec différents pays. Istanbul, notamment, 1 million de personnes à Istanbul pour cette manifestation pro-Palestine. Wellington également, en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas que le rugby en Nouvelle-Zélande. Il y a aussi les manifestations pro-Palestine. Bagdad, mais aussi Berlin, Rome, Stockholm, Zurich, Genève, Berne, New York, Toronto, l'Indonésie. Elisabeth Lévy.
C'est l'islamo-gauchisme.
Non, mais attendez. Tous ces gens-là sont des islamo-gauchistes. Tous les gens de l'Ouest sont
des islamo-gauchistes. Non, mais attendez, je vous assure, c'est des sujets compliqués. Donc, si j'arrive pas à faire plus que deux mots, je risque de dire des bêtises. Donc, il y a au cœur de l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire des islamistes et des extrêmes gauchistes qui plus ou moins ouvertement font alliance avec eux. Je vous rappelle quand même, vous n'avez pas cité Sydney, qu'à Sydney, ils ont quand même scandé « Gas the Jews ». Si vous voulez, c'est là, au moins, c'est clair. Mais autour, il y a effectivement toutes sortes de cercles concentriques. Il y a des gens qui sont simplement là parce que, par ce sentiment de l'humiliation arabe. Mais il faut faire attention. Car, par exemple, je vous donne, il y a eu un sondage en Turquie. Et c'est très intéressant, parce qu'en Turquie, en plus, vous l'avez vu, Erdogan a vraiment, alors lui, il essaye, je veux dire, c'est le nouveau sultan, le nouveau calife de la cause palestinienne. Et en Turquie, il y a eu un sondage. Eh bien, il y a la moitié des Turcs qui demandent, si vous voulez, plutôt, qui voudraient plutôt une position de neutralité. C'est intéressant, parce qu'on est en Turquie, on est... Non, mais c'est ce que j'essaye de vous dire, c'est que l'opinion, même dans ces pays-là, n'est pas monolithique. Et que quand
évidemment, c'est partagé, mais un million, c'est significatif. Un million de personnes dans les rues, c'est significatif, en Turquie, notamment. Et cela veut dire aussi peut-être que l'opinion publique est en train de changer après tout ce qui s'est passé le 7 octobre aujourd'hui et les images qui nous proviennent du Proche-Orient concernant Gaza en termes humanitaires. Philippe Doucet, on a l'impression aujourd'hui que le logiciel change et que le monde considère qui est le gentil et qui est le méchant.
Je pense que sur les manifestations, deux choses. Bon, que la rue arabe soit favorable à la Palestine, c'est pas nouveau. En même temps que les États arabes se moquent de la Palestine, c'est pas nouveau non plus. Je veux dire, les accords d'Abraham, je disais à l'instant, le Maroc les a signés, les Marocains ont toujours défendu la cause palestinienne, le gouvernement marocain a signé les accords d'Abraham avec le gouvernement israélien. Bon, donc, et même chose pour Erdogan. Maintenant, il a dit il y a trois jours qu'il était pour le Hamas, mais pendant longtemps, il a un accord de non-agression avec le gouvernement israélien depuis des années. Bon, donc ça, c'est une chose. Après, sur la question des pays occidentaux, alors, pour Wellington, ou la Sydney, c'est un peu étonnant. Sur les pays européens, donc effectivement, vous avez Londres, vous avez Berlin, vous avez Rome, ces pays-là, Rome, bon, ouais. Ou même ce qu'on voit en Espagne. C'est clair que la bataille de l'empathie qu'Israël avait gagné, si je puis dire, si on peut gagner quelque chose dans ce niveau de massacre lié aux attentats et au terrorisme, aux tortures qui avaient eu lieu le 7 octobre. Donc là, il y a eu un mouvement de sympathie vers Israël, bon, en disant quand même la torture, les enfants tués, les otages. Bon. Ce mouvement-là d'empathie, il est en train de changer de camp. Parce que effectivement, le bombardement, milliers de morts, même si on peut discuter du nombre de morts, 3000, 2000, 4000, de toute façon, c'est considérable. Dans une situation, tout le monde a bien compris que Gaza, c'était une souricière. Parce que Gaza, ce que tout le monde oublie, y compris, c'est qu'il y a un blocus israélien, mais il y a aussi un blocus égyptien. C'est-à-dire que les Égyptiens n'ont aucune envie de récupérer les habitants de Gaza. Aucune envie.
Ni les Égyptiens, ni les Jordaniens.
Non, personne. Voilà. Bon. Et donc, du coup, c'est effectivement, au-delà des manifestations, on sent bien que si les bombardements continuent sur Gaza, quelle qu'en soit la forme, aérienne, navale, artillerie et tout ça, qu'effectivement l'empathie va changer de camp et ça va faire partie de la difficulté du gouvernement israélien dans les jours et les semaines qui viennent.
Et c'est peut-être la réussite du Hamas, je cède la parole à Elisabeth Lévy, et de l'Iran aussi qui semble tirer les ficelles. C'est ce qu'a dit Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, tout à l'heure. Il a expliqué, si on se retrouve dans ce concert mondial en faveur des Palestiniens, notamment à travers le monde, comme on vient de le montrer, c'est que l'Iran est sans doute à l'origine de tout cela. Et selon Benjamin Netanyahou, sans l'Iran, il n'y a pas de Hamas.
Oh, alors. Vous allez le passer.
Iran soutient le Hamas. Et je pense que c'est à peu près 90% du budget militaire de Hamas vient d'Iran et finance, elle guide, elle conseille. Je ne peux pas vous dire nécessairement que concernant cette opération, à ce moment-là, ils étaient dans le micro-détail de l'opération. Mais dès qu'on comprenne ce qui se passe au Hamas, sans l'Iran, il n'y a pas de Hamas, comme il n'y a pas de Hezbollah sans Iran.
Bon, moi d'abord, si vous voulez, Netanyahou est un politique, et vous savez, l'Iran joue un peu aussi le même rôle de méchant, vous voulez bien que ce soit un très méchant, mais dans la politique israélienne, que l'Irak à certains moments dans la politique américaine, donc il est clair que l'Iran évidemment est un soutien du Hamas, je ne suis pas sûr que le Hamas soit une marionnette de l'Iran. Les acteurs ont toujours des logiques propres, mais moi je voulais quand même d'abord, évidemment vous avez raison, le soutien, parce que comme on est dans une bourse aux émotions, une émotion chasse l'autre. Si vous voulez. Et on arrive à cette situation où tout le monde dit à Israël, vous avez le droit de vous défendre, mais en fait, sans vous défendre. Parce que la réalité, voulez, c'est que vous ne pouvez pas détruire aujourd'hui, même significativement, des forces, des forces militaires, des forces humaines du Hamas, sans malheureusement toucher des civils. Maintenant, si vous voulez, contrairement au siège de Yarmouk dont je vous ai parlé, c'est pas tout à fait ça. On demande aux gens. Bon, je ne dis pas que c'est extraordinaire, mais c'est sûr que comme ça se joue, si vous voulez, juste à l'émotion, les gens ne peuvent pas comprendre que pour Israël, c'est une question vitale. Je comprends que les gens ne le comprennent pas, et moi, moi, ça me fait vraiment de la peine, si vous voulez, pour les Gazaouites qui vont avoir c'est détruit, quoi. C'est
alors, peut-être très rapidement sur l'Iran. Je partage ce que dit Elisabeth Lévy. Je pense que c'est le grand méchant. C'est un grand méchant, mais c'est un grand méchant qu'utilise Netanyahou par rapport à ça. Je pense que le Hamas a pas monté tout ça. C'est pas des marionnettes. Donc ils ont leur propre calendrier, leur propre stratégie.
Et ils n'ont pas monté seul.
Donc, à qui profite le crime, c'est la question qu'on pourra se poser tout à l'heure.
Après, derrière, sur l'isolement, la résolution de l'ONU.
On en parle après. Allez, on marque une pause et on en parle juste après le flash. On continue à évoquer ce sujet, évidemment, qui est au cœur de notre quotidien, de l'actualité dans cette dispute. A tout de suite sur CNews. La deuxième partie de Ça se dispute, même le samedi, avec Elisabeth Lévy et Philippe Doucet. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le point sur l'actualité d'Adrien Spiteri. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Lionel et bonsoir à tous. Ça l'assure, Gazaville est désormais un champ de bataille. La guerre avec le Hamas est entrée dans une nouvelle phase. Ce sont les mots du ministre israélien de la Défense. Les bombardements se sont intensifiés dans la bande de Gaza. Plusieurs incursions de l'armée israélienne ont également été observées dans l'enclave palestinienne. Et dans ce contexte, le Hamas se dit prêt à relâcher les otages à une condition, la libération de tous les Palestiniens incarcérés en Israël. L'annonce a été faite dans un enregistrement vidéo par le porte-parole militaire du mouvement terroriste. Selon les autorités israéliennes, environ 230 otages ont été enlevés lors de l'attaque du 7 octobre dernier. Et puis pour Recep Tayyip Erdogan, l'Occident est, je cite, le principal coupable des massacres à Gaza. Des propos tenus par le président turc lors d'un meeting de soutien à la Palestine à Istanbul. Recep Tayyip Erdogan appelle également à un cessez-le-feu. Après ces propos, Israël a décidé de rappeler ses diplomates de Turquie afin de réévaluer les relations entre les deux.
Merci Adrien Spiteri. Prochain point sur l'actualité, 22h sur CNews. On revient d'ailleurs sur ce sujet des otages qui est prégnant, particulièrement sensible en effet depuis le 7 octobre désormais. Peut-on vraiment sauver ces otages retenus par le Hamas? Le Hamas qui a affirmé qu'il était prêt en effet à relâcher ces otages enlevés lors de l'attaque sur le sol israélien en échange de la libération de tous les Palestiniens incarcérés en Israël. Le prix à payer pour le grand nombre d'otages de l'ennemi, dit-il, dit le Hamas, qui sont entre nos mains, est de vider les prisons de tous les détenus palestiniens, que ce soit en une seule fois ou sinon avec un processus par étapes. Voilà, il y a des options possibles, c'est ce que le Hamas propose éventuellement. Selon le dernier bilan des autorités israéliennes, environ 230 otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre. La réaction de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, aujourd'hui à ce sujet.
À partir de maintenant, nous ferons tout ce qui est possible pour ramener les personnes enlevées et les rendre à leurs familles. Leur enlèvement est un crime contre l'humanité. Ceux qui se permettent d'accuser nos soldats de crimes de guerre, ce sont des gens qui sont emplis de haine et de mensonges, qui n'ont aucune morale.
Nous ferons tout pour les faire revenir. Israël va explorer toutes les options pour libérer les otages. Mais sont-ils véritablement, Philippe Doucet, ces otages prioritaires dans le conflit qui, finalement, implique Israël et le Hamas aujourd'hui?
Bon, déjà, faut mesurer le niveau de cynisme du Hamas. Hein. Si on raisonne en termes de stratégie militaire et politique, d'avoir réussi à prendre entre 220 et 230 otages, certains de nationalité israélienne, d'autres nationalités, voire des binationaux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une pression sur le gouvernement israélien, mais il y a aussi une pression sur le gouvernement américain,
la France,
sur le gouvernement français, parce que nous avons des nationaux ou des binationaux qui sont otages du Hamas, et donc effectivement, ça met une pression par rapport à ça. Donc honnêtement, je n'aimerais pas être dans la tête du Premier ministre israélien, puisque d'un côté, ils veulent détruire l'infrastructure militaire du Hamas qui est au milieu de la population civile, probablement avec dans les souterrains, avec probablement les otages dans les souterrains, et de l'autre côté, avoir à choisir comment on fait pour libérer ces otages, sans qu'il y ait des dizaines et dizaines de ces otages qui meurent. Donc c'est pour moi une équation impossible. Ma conviction, c'est qu'en un, ils ont mis la destruction du Hamas, et en deux, les otages. Voilà, ça, c'est ma conviction. Parce que Israël, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est, faut mesurer ça si on se mettait ça au niveau de la France. Le nombre de morts, si on multiplie par 6 ce que ça donne, les intrusions, l'échec militaire absolu, 8 heures sans que l'armée israélienne réagisse, c'est un traumatisme extraordinaire sur la société, sur l'armée israélienne. Et donc je pense que la riposte va être la priorité une. Maintenant, il va y avoir de la pression des Israéliens, on voit les familles qui manifestent devant la Knesset, on voit le gouvernement français, le gouvernement américain, puisque le Hamas en plus a libéré deux otages américano-israéliennes pour donner un signal. Donc malheureusement, le Hamas va jouer avec ça pendant des jours et des jours. C'est-à-dire que ça va être une monnaie d'échange, un chantage assez ignoble, alors que tout le monde demande la libération des otages sans précondition, sans condition particulière. Oui,
on voit l'image d'ailleurs, la manifestation en Israël des proches, notamment.
Quand vous prenez des otages, c'est évidemment pas pour les rendre sans condition. Donc, si vous voulez, c'est aussi pour faire ce que vous avez dit, pour compliquer, pour qu'il y ait une pression sur Israël, parce qu'à mon avis, il faut absolument pas croire les offres du Hamas. Et par ailleurs, je le redis, parce que vous avez oublié, vous dites le 7 octobre, il y a eu les intrusions, etc. Il y a eu surtout, chez tous les Israéliens, et notamment de gauche, si vous voulez, des gens qui croyaient à la paix, il y a eu cette idée de se dire, ils veulent nous exterminer. Ils ne veulent pas simplement se battre, récupérer un bout de territoire. Avec des gens avec qui on a un conflit territorial, on peut s'arranger, si vous voulez, à la fin, normalement. Pas Netanyahou, mais j'espère bien que Netanyahou est pas éternel. Mais on peut s'arranger avec des gens avec qui on se dispute une terre, on partage, on fait des concessions. Comment vous voulez vous arranger avec des gens qui veulent vous exterminer? Ça, c'est le fondement, je crois, de la réaction israélienne. C'est pour ça, si vous voulez, je vous ai dit une chose tout à l'heure qui vous a un peu choqué parce que peut-être je me suis mal fait comprendre. Je voulais dire que absolument toutes les vies se valent. Mais dans cette affaire, les morts ne sont pas équivalentes parce que dans un cas, il y a des morts qui font partie d'un processus d'extermination, d'accord ? Et dans un autre cas, il y a des morts qui, malheureusement, font partie d'un processus de défense. Et il y a ce sentiment en Israël que vous pouvez peut-être ne pas partager, mais qui est, si on ne fait pas une opération à la mesure de ce qui a été, de ce qu'on nous a fait, notre capacité de dissuasion, c'est-à-dire notre capacité de survie, est entamée. Regardez une carte. Regardez une carte aujourd'hui, Netanyahou a dit dans sa conférence de presse, il y a des gens qui sont prêts à tirer, il y a des gens qui ont tiré du Yémen aujourd'hui, probablement le missile qui est tombé sur Taba, à la frontière égyptienne. Donc si vous voulez, il y a l'Iran, il y a la Syrie, la Jordanie, je ne crois pas que la Jordanie soit une menace militaire, mais bon. Donc il y a le Liban. Donc si vous voulez, c'est pour Israël, il y a cette difficulté, et c'est pour ça que je partage in fine l'analyse de Philippe. Si vous voulez, je pense que c'est bien que Netanyahou ait dit absolument le contraire, que ce n'était pas un objectif secondaire. Je crains malheureusement que ce ne soit pas le premier objectif. Et je dois dire que pour les otages qui n'ont pas d'autres nationalités, c'est vraiment...
Ça peut être compliqué.
C'est terrible. En revanche, je pense qu'il y a des marges parce que le Qatar joue quand même un grand rôle. Par exemple, pour la libération de tous les otages qui ont d'autres nationalités, il y a peut-être plus...
Vous avez raison sur une chose.
Vous avez parlé de manif. Vous vous rappelez il y a eu un soldat qui avait été pris par le Hamas ou par le Hamas. Gilad Shalit. Son père.
Mais ça a duré 5 ans.
Ça a duré 5 ans. Mais il y a eu pendant 5 ans, son père a planté sa tente devant le siège du gouvernement.
Donc là, ça va. Un homme. Mais il y a des prisonniers palestiniens qui ont été libérés.
C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire.
1200 prisonniers palestiniens de mémoire libérés face.
Là, ce sont tous les prisonniers palestiniens. Et je retiens ce que vous disiez, Elisabeth Lévy, c'est que finalement, dans ce conflit, nous sommes égaux. Je dis nomme l'être humain en général. Nous sommes égaux dans la vie, mais nous ne sommes pas dans la mort. Dans la manière de mourir, en tout cas.
Et ça
pourrait donc justifier les répliques d'Israël.
Je comprends que quand c'est à l'échelle individuelle, évidemment, à l'échelle individuelle, vous mourrez, c'est pas tout à fait la même chose de mourir attaché avec votre famille, ligoté, brûlé vif avec votre famille, s'il faut vraiment vous remettre des images en tête. Mourir sous un bombardement, c'est terrible pour vos proches, c'est terrible. Mais celui qui vous a tiré dessus, c'était pas son but de vous, ni de vous tuer, ni de vous terroriser. Ça fait, malgré tout, une différence. Je
Donc
crois
ça
que c'est mort.
Une non. vengeance éventuelle.
Comment ça Mais ça n'est pas une vengeance. Non, ça n'est pas une vengeance. Je vous dis, ça c'est
une
incroyable.
Une réponse alors. Ça justifie une réponse.
Oui, mais
alors.
C'est pas la même chose. Si vous voulez, si
dans,
je
l'esprit,
un...
dans l'esprit de
ben
beaucoup...
Oui, mais dans l'esprit, excusez-moi, si les... je viens de vous le dire, il s'agit pour Israël de restaurer
d'une
la
réponse.
Capacité de dissuasion. Ben oui, on appelle ça une riposte, une réplique, si vous voulez. Il y a en Israël des gens qui, je pense, sont aujourd'hui totalement dévastés et voudraient de la vengeance. Mais je ne crois pas que cette opération soit une opération de vengeance. Cette opération vise... pas, si vous voulez, à faire souffrir des gens, elle vise d'abord à détruire le Hamas, c'est pas une question affective, le détruire le plus possible, et elle vise, je vous dis, à restaurer l'idée de, chez les voisins d'Israël que le shérif est de nouveau là, si vous voulez, parce que sinon c'est...
Pour le peuple israélien, pour la population, on l'a entendu sur cette antenne, avec notamment des témoignages en direct de Tel Aviv notamment, le mot vengeance revient souvent, parce que le peuple israélien a été tellement touché par ce qui s'est passé le 7 octobre, qu'évidemment... On peut comprendre d'ailleurs soit dans cette état d'esprit en effet.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est finalement et on verra quand le jour on écrira l'histoire que Joe Biden est un grand président, parce que c'est lui en fait qui a dit aux Israéliens, si vous rentrez comme nous après le 11 septembre dans le cycle de la vengeance, d'abord un, ça s'arrête jamais, deux, en plus vous perdez la bataille politique, la bataille de l'opinion autour de ça, et donc du coup effectivement, je pense que cette bataille-là, puisque c'est une bataille aussi insoluble pour Israël, puisque du coup, comme les structures de Hamas sont dans la population, le tout sur un tout petit territoire où tout le monde est mélangé, je pense que c'est une bataille politique où Israël va peut-être la gagner en termes militaires, on verra, encore que d'aller chercher des soldats dans des couloirs.
Ils auront beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes.
Avec à 60 mètres de profondeur, ça va être une sacrée paire de manches. Mais aujourd'hui, la bataille politique pour Israël, elle est perdue, puisque la question palestinienne est revenue au cœur du débat. Elle est revenue au cœur de, il n'y aura plus d'accord d'Abraham de signer, l'Arabie Saoudite ne signera pas. En tout cas, je pense qu'il va se passer des années avant que tout le monde revienne dessus. Le fait que la colonisation en Cisjordanie puisse continuer à bas bruit sans que ça fasse de vagues particulières par rapport à ça. L'opposition à Netanyahou qui était endormie au fur et à mesure, non pas en Israël, puisqu'il y avait le débat sur la Cour suprême israélienne, mais en tout cas dans les opinions publiques, il y avait une espèce de défaitisme sur le fait de sortir du conflit israélo-palestinien par le haut, je pense que cette question-là est redevenue devant. Donc peut-être qu'à la fin, Israël gagnera la bataille militaire, mais elle a déjà perdu la bataille politique.
Mais excusez-moi, moi je considère, moi qui aime beaucoup Israël, je considère que pour Israël, ce serait une grande victoire qu'il y ait une solution politique. J'attire simplement d'abord votre attention sur le fait que, je rappelle que Gaza n'est plus occupé depuis 2005, que c'est le Hamas qui a pris le pouvoir par la force à Gaza, et que des gens, si vous voulez, qui fabriquent des tunnels, qui fabriquent une ville souterraine, c'est pas pour faire des crêpes, c'est pas pour faire des rave parties, c'est parce que jamais, au grand jamais, ils n'ont accepté le moindre État d'Israël, petit, grand, d'un côté ou de l'autre du Jourdain. Maintenant, je voudrais quand même dire un mot, c'est plus grave que en Cisjordanie. Si vous voulez. Le problème n'est pas que la colonisation se poursuive aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on crée de nouvelles colonies. Le problème, c'est qu'elle est plus dangereuse encore. Disons qu'elle est dangereuse, évidemment, pour les villageois palestiniens qui sont... Il y a, pas tous les colons, vous avez des grandes villes, des colonies qui pourraient être un objet d'échange, mais vous avez aussi des cinglés, il faut le dire, des cinglés racistes qui veulent tuer des Arabes, qui sont vraiment... à mon avis, une menace terrible pour Israël, qui sont en train de... ils appellent ça la Judée, alors il faudrait voir une carte.
Judée-Samarie.
Non, mais il y a deux parties dans la Cisjordanie, donc ça c'est en Judée, dans les montagnes. Et si vous voulez, ça, effectivement, juste... S'il n'y a pas d'élections qui sont organisées en Israël en sortie de crise, si vous voulez, ce que me disait encore Gil, il me disait, mais... les gens qui ont manifesté, cette fois-ci, ça ne va pas être comme ça. Ils vont sortir de chez eux, ils vont s'asseoir par terre, et ils ne bougeront pas tant qu'il n'y aura pas des élections.
Et dans quel état va ressortir la population? On peut parler de la population aussi de Gaza, car il y a une vraie crise humanitaire, une catastrophe humanitaire. On peut se demander d'ailleurs à qui profite le crime, parce que, et cette situation humanitaire. La population en pâtit, mais est-ce que c'est à l'avantage du Hamas? Est-ce que Israël pourrait tirer les marrons du feu également? On en parle avec vous, mais écoutez, à ce sujet-là, Benjamin Netanyahou, et sur le fait aussi que Tsahal, je le cite, hein, et vous allez l'entendre, est une armée morale, c'est-à-dire qu'elle prévient et elle essaie d'épargner les civils avant de bombarder.
Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Tsahal fait tout ce qu'il peut pour éviter de toucher des personnes qui ne sont pas impliquées. Et j'appelle à nouveau toutes les populations civiles de quitter le nord de Gaza. Le cynisme de l'ennemi n'a aucune limite. Il effectue des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité lorsqu'il utilise des populations civiles comme boucliers.
Philippe Doucet, ce qui honorerait peut-être Israël ou Tsahal, et ça deviendrait vraiment moral pour le coup, c'est peut-être d'accepter la résolution de l'ONU qui réclame une trêve humanitaire immédiate.
Bien sûr, parce que je ne vais pas polémiquer avec M. Netanyahou sur une armée morale, mais enfin, aujourd'hui, ils ont demandé aux Gazaouis du Nord de descendre vers le Sud, mais enfin, le Sud est quand même bombardé.
Aller où surtout ?
Donc, pour aller où ? De toute façon, l'Égypte n'ouvrira pas la frontière parce qu'ils n'ont aucune envie d'avoir ni des militants, ni des habitants de Gaza, ni des militants du Hamas chez eux. Je rappelle quand même, pour que nos téléspectateurs, qu'à une époque, Daesh a envoyé des militants à travers Gaza pour aller tuer des soldats égyptiens pendant le Ramadan. Donc, autant vous dire que voilà, le maréchal El-Sissi, tout ce qui est frères musulmans qui s'en rapprochent, il est hors de question qu'ils arrivent sur son territoire. Bien. Donc, par contre, effectivement, aujourd'hui, ni l'eau, le carburant, on voit bien, là, on va avoir des problèmes humanitaires, non seulement par les bombardements, mais des gens sur les hôpitaux, sur la soif, sur la faim, qui vont arriver là-dessus. Et donc, effectivement, dans cette bataille-là, politiquement, Israël aurait intérêt à avoir cette trêve humanitaire, parce que finalement, le Hamas utilise de manière cynique les otages, mais il utilise aussi de manière cynique sa population. D'ailleurs, il y a une déclaration du patron politique du Hamas aujourd'hui dans une conférence de presse au Qatar pour dire, bah oui, mais ils vont mourir en martyrs, mais finalement, ils porteront la cause par rapport à ça. Donc, ils utilisent leur propre population dans la bataille politique qui est en cours. Et donc, Israël aurait intérêt, entre guillemets, à faire du judo par rapport au Hamas pour permettre effectivement cette trêve humanitaire pour que au moins le sud de Gaza soit fourni en eau, en carburant, en nourriture, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus rien. Il y a 10 camions qui passent par jour.
Vous avez raison, il faut de toute façon qu'il y ait des solutions. Alors la difficulté par exemple pour le carburant, c'est que, si vous voulez, Israël l'a dit, moi si je donne du carburant, si je laisse passer du carburant, c'est le Hamas qui va s'en servir pour son matériel. Donc c'est ça c'est une... D'ailleurs, Jean-Sébastien Ferjou avait trouvé lui aussi une interview, alors qu'il avait besoin de voir couler le sang des femmes, des enfants et des vieillards de Gaza pour que l'esprit de résolution et de détermination des Palestiniens se réveille. Mais un mot sur l'ONU. L'ONU est le dernier acteur à pouvoir intervenir dans ce conflit. L'Assemblée générale de l'ONU, si vous voulez, a condamné 400 fois Israël comme un État raciste. Alors ils peuvent bien parler, si vous voulez. Moi, je comprends que les Israéliens se fichent éperdument. Je ne parle pas du Conseil de sécurité. Là, c'est sérieux. Mais le reste, si vous voulez, l'ONU a perdu.
Les résolutions, peu importe.
L'ONU a perdu toute légitimité. Des États comme le Soudan, le Yémen, le Pakistan condamnent Israël à la Commission des droits de l'homme. C'est sérieux, ça ? Je veux dire, donc, vous parlez de l'ONU en Israël, si vous voulez, l'ONU est... Parce que forcément, l'ONU est une espèce de chambre d'écho de ce qu'on appelait autrefois le tiers-mondisme. Si vous voulez. Et ça, on devrait quand même parler. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir ce qui se crée autour de ce conflit. Parce qu'on n'en a pas tellement parlé. Mais donc, vous voyez bien, il y a effectivement les opinions publiques arabes, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de non-alignement. On est dans une nouvelle guerre froide, en réalité, qui est en train de se... Oui. Vous avez remarqué que la Chine... Franchement, je veux dire, le rapport entre les Chinois et le conflit israélo-palestinien me paraît assez lointain, y compris affectivement. Mais la Chine a pris des positions tout à fait... Voilà, les Russes, bien sûr, qui pourtant... c'était pas des amis, mais enfin, il y avait quand même des relations avec Israël. Donc vous voyez que dans le monde entier, ça va devenir un marqueur et ça rappelle, moi, ça rappelle les récits où ce qu'on a vu, moi j'étais petite, mais des années 70, cette espèce d'alliance, si vous voulez, les nouveaux damnés de la Terre, ah bah oui, contre l'Occident, pour le coup. contre l'Occident.
Mais on ne fait rien pour les populations civiles. Si, c'est-à-dire que.
Mais j'ai pas dit ça du tout. J'ai commencé. Mais j'ai commencé mon propos.
Je suis bien d'accord, Elisabeth Lévy.
Bien évidemment. Je vous ai dit juste.
Mais vous nous avez dit aussi que l'ONU n'était pas respectée par Israël, donc on ne fait rien.
Pourquoi il y a que l'ONU qui l'a demandé, l'Union européenne l'a demandé.
La France l'a demandé aussi.
Et ben c'est pour ça que vous me dites on ne fait rien. Non mais ça j'aime pas ça. C'est-à-dire que si vous critiquez quelque chose, la réponse est ah oui alors donc on ne fait rien. Ben non. Je vous dis juste. En incise, mais peut-être j'ai été trop longue, parce
peut-être qu'il sera
que l'ONU, si vous voulez, n'est pas le bon levier dans cette affaire. Lévy, mais par ailleurs, je pense qu'Israël... Mais
j'ai commencé par vous dire ça. Ça honorerait peut-être Israël, mais c'est marrant, de la faire cette trêve.
C'est marrant, non, hein. On dirait... Non, mais non, allez-y, c'est important allez-y. Parce qu'on dirait que vous ne m'avez pas entendu.
Alors allez-y,
j'ai commencé,
il reste une minute.
Mais j'ai commencé en disant cela. J'ai commencé en vous disant, il faut qu'il y ait une solution. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça, vous ne l'avez pas entendu.
Non.
Eh ben, c'est bizarre.
Non, là, je n'ai pas perçu.
Avec Elisabeth Lévy sur l'histoire de l'ONU. Bien sûr que le gouvernement israélien, il se moque des résolutions de l'ONU. Mais sauf que...
Pas du Conseil de sécurité.
Pas du Conseil de sécurité. Mais là, il y a une résolution non contraignante qui a été votée. Mais finalement, elle montre quoi? Elle montre l'isolement des États-Unis. Elle montre l'isolement d'une partie des pays européens... finalement, n'ont pas soutenu cette résolution. Et on voit que l'Union européenne s'est scindée en trois, puisque certains pays ont soutenu cette résolution contraignante, dont la France. D'autres se sont abstenus, comme l'Allemagne. D'autres s'y sont posés, comme la Hongrie et la Roumanie, de mémoire. Donc, on voit bien que par rapport à ça, dans l'opinion publique mondiale, dont Israël peut se moquer par rapport à ça, il y a quand même une partie qui se
moque pas de l'opinion, il se moque de l'ONU un peu, c'est ça
oui,
que j'essaye de vous dire,
l'ONU,
c'est pas pareil.
L'ONU représente un peu, dans ce tribunal des nations, dans cet agora des nations, représente ça. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer
cette agora des nations. Mais je pense surtout qu'il faut qu'il y ait une solution, parce que les gens ne peuvent pas attendre éternellement sans eau et sans nourriture et sans soins.
Parce que même si on laisse pas passer le carburant, on peut peut-être laisser passer l'eau ou la nourriture par rapport au
J'espère que ça va être fait.
On va vous réunir encore, Elisabeth Lévy et Philippe Doucet, parce qu'on passe de très très bons moments avec vous. C'est toujours très intéressant, très élaboré, il faut le dire. Donc on vous remettra.
Espérons qu'on aura une actualité un peu plus souriante, parce qu'on aime bien.
Je pense que malheureusement, Elisabeth, ça va durer.
L'actualité d'ailleurs continue sur l'antenne de CNews avec Soir Info, Olivier de Clermont-Fleck qui arrive. Merci de nous avoir accompagnés.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.